Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Au début, ça sent pas très bon, et puis après, c'est un peu en plastique, et puis tu respires du plastique un peu toute la journée, donc. Et puis c'est moins doux que le tissu.
Les masques faits maison exclus de l'école. Les enfants doivent depuis aujourd'hui porter des masques de catégorie 1. Ils sentent pas bon, ils sont moins doux, mais ils sont plus efficaces contre les variants. Et ce n'est pas la seule nouveauté dans les classes. Protocole sanitaire encore une fois renforcé, on vous dit tout dès le début de ce journal. Olivier Véran retrousse ses manches pour montrer l'exemple. Le ministre de la Santé a reçu aujourd'hui la première injection du vaccin AstraZeneca, réservé en priorité au personnel soignant. Louis Alliot hors la loi, le maire RN de Perpignan annonce la réouverture demain de 4 musées municipaux en dépit de l'interdiction. L'armée allemande au secours des hôpitaux portugais, des soignants de la Bundeswehr ont ouvert une unité de soins intensifs à Lisbonne. Nous irons sur place dans ce journal. Dans au sommaire également, l'affaire Adama Traoré relancée par une nouvelle expertise, la première mandatée par la justice qui n'exclut pas une responsabilité des gendarmes dans la mort du jeune homme. La région Occitanie lance la gratuité des TER pour les 18-26 ans et puis nous irons à Saintes où le niveau de la Charente s'est enfin stabilisé. La météo, prudence, 12 départements sont ce soir en vigilance orange, 6 pour cru, 4 pour neige verglas et 2 pour grand froid. Demain matin, épisode de neige attendu sur la Bretagne puis sur toutes les régions au nord de la Loire pour la fin de journée, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,47% à 5 656 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, elle reviendra sur l'OPA que veut lancer Veolia sur Suez. Sommes-nous en train d'assister à une bataille historique? C'est l'une des questions que posera Emmanuel Duteil à son invité François Chollet, directeur général de Montségur Finance. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fini donc les jolis masques en tissu cousus avec amour par papa ou maman, pas assez efficaces face à la menace des variants. La règle depuis aujourd'hui dans les établissements scolaires est claire, seuls les masques de catégorie 1 sont désormais acceptés, autrement dit les chirurgicaux ou ceux en tissu fabriqués par les industriels. Un crève-cœur pour les enfants et on les comprend. Ils ont eu le temps ces derniers mois de s'attacher à leurs masques bariolés, à l'effigie de super-héros ou de leur club de foot préféré, mais finalement la consigne a été plutôt bien respectée, comme a pu le constater Marine Protet à la sortie d'une école élémentaire à Paris.
À la sortie de l'école, quasiment que des masques chirurgicaux sur les visages des enfants. Pour Camille, 10 ans, c'était une grande première et elle n'a pas du tout aimé.
Déjà, au début, ça sent pas très bon et puis après, c'est un peu en plastique et puis tu respires du plastique un peu toute la journée. Donc, et puis c'est moins doux que le tissu.
Et c'est parfois aussi trop grand pour leur visage. Enguerrand a emprunté un masque chirurgical à sa mère ce matin. Mais rapidement, ce petit garçon de 7 ans a trouvé l'astuce.
J'ai dû tourner le fil du masque autour de l'oreille. Parce qu'il ne tient pas si je le plie qu'une seule fois ou deux fois.
Ses parents n'ont pas été prévenus par l'école, pas de mail ni de mots dans le cahier pour expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, les masques faits maison sont interdits. Stéphanie l'a appris par les médias, elle a donc pris les devants dès la semaine dernière.
Au début, je voulais lui donner des masques à moi, que j'avais de par mon employeur des tailles adultes, et en fait, ça la gênait beaucoup. Donc, je lui ai acheté des masques de taille enfant, que j'ai trouvé dans une parapharmacie, et pas très cher.
15 euros la boîte de 50, mais pour cette maman, le problème n'est pas le prix, mais plutôt qu'elle se retrouve désormais avec un stock de masques artisanaux dont elle ne sait pas quoi faire.
Le reportage de Marine Protet pour Europe 1. Et il n'y a pas que les masques qui changent à l'école. Un énième renforcement du protocole sanitaire est entré en vigueur aujourd'hui avec de nouvelles mesures en cas de contamination aux variants, Virginie Riva.
Oui, désormais, lorsque dans une classe, un enfant sera qu'à contact d'un membre de sa famille contaminé par un des deux variants, la classe devra automatiquement fermer. Des mesures qui s'ajoutent à celles prises la semaine dernière, à savoir la fermeture automatique d'une classe de primaire, collège ou lycée dès qu'un élève a un cas de variant et la fermeture d'une classe de maternelle dès l'apparition d'un cas de Covid simple. Pour le syndicat majoritaire des médecins scolaires, le SNMSU, il va être très compliqué sur le terrain de faire face à l'augmentation de recherche de cas contact avec toutes ces mesures. Jocelyne Grousset plaide plutôt pour une fermeture des classes.
L'ensemble des mesures qui ont été proposées par l'éducation nationale peinent à se mettre en place et donc elles ne seront pas assez rapidement efficaces pour ralentir la circulation du virus. On est dans une circulation extrêmement importante là au niveau des écoles. Effectivement, il vaut mieux suspendre l'activité scolaire pour permettre une coupure, une rupture de la chaîne.
Toutes les écoles ne sont pas ouvertes actuellement puisque les vacances de février ont débuté samedi dans la première des trois zones, mais le syndicat préconise une fermeture des classes durant 4 semaines à partir d'aujourd'hui. À ce stade, le ministère de l'Éducation nationale nous dit être entré en contact avec eux.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1 à Aubonne dans le Val d'Oise. C'est tout le collège Jules Ferry qui restera fermé jusqu'au 1er mars en cause. La découverte de plusieurs cas positifs, dont 2 au variant sud-africain. Il est également demandé aux parents d'élèves des collégiens positifs de ne pas envoyer leurs frères et sœurs à l'école cette semaine. Chemise ouverte, manches retroussées, c'est un Olivier Véran légèrement dénudé qui a donné l'exemple aujourd'hui. Le ministre de la Santé est le premier membre du gouvernement à se faire vacciner. Il a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca, réservé pour l'heure au personnel de santé de moins de 65 ans. Olivier Véran, qui, on le rappelle, est médecin neurologue, a donc profité de ce nouveau sérum et l'a fait savoir, Anne Le Gall.
Oui, 11h35 ce matin, le ministre a rempli son questionnaire de pré-vaccination avant de déboutonner sa chemise et présenter le haut du bras à une infirmière.
Vous me dites quand vous piquez ?
Bah, j'y suis déjà.
Ah bon ?
Ça va ?
Ah bah oui, super rapide. Rien sorti.
0,5 minutes.
Olivier Véran est ensuite resté quelques minutes en observation, comme le veut le protocole, avant de ressortir et d'encourager tous les soignants à se faire eux-mêmes vacciner.
J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner dans leurs hôpitaux, dans les centres de ville, toutes les structures qui sont à leur disposition pour pouvoir se protéger au plus vite. Et vous le voyez, bien qu'ayant reçu une injection de vaccin, je porte toujours le masque, je mets du gel hydroalcoolique, je respecte l'ensemble des gestes barrières. Bref, je ne relâche pas la vigilance.
La France a déjà reçu 273 000 doses de ce vaccin AstraZeneca pour une vaccination qui est pour l'instant réservé aux soignants de moins de 65 ans. 300 000 autres doses sont attendues dans quelques jours et d'ici à la fin du mois, ce vaccin qui se conserve dans un simple frigo pourrait être administré aux personnes de 50 à 65 ans en passant par les médecins de ville et les pharmaciens. Interrogé sur l'efficacité de ce vaccin AstraZeneca face aux variants, le ministre s'est voulu rassurant. Ce vaccin est efficace contre 99% des coronavirus circulant en France actuellement.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. J'ajoute que l'Afrique du Sud a décidé de reporter le lancement de sa campagne de vaccination en raison d'une étude remettant en cause l'efficacité de ce vaccin AstraZeneca sur le variant local. Les premiers résultats montrent qu'il ne prévient que 22% des contaminations face à cette mutation. Retour en France, où les polémiques se diffusent aussi vite que les variants. La dernière en date est signée Louis Alliot. Le maire Rassemblement National de Perpignan a décidé de rouvrir dès demain 4 musées municipaux, ce qui est totalement illégal. Un passage en force qui intervient alors que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a expliqué ce matin attendre une décrue de l'épidémie avant d'envisager une réouverture des musées et des monuments. Invité ce soir du 18-20 d'Europe 1, Louis Alliot assume braver la loi, une mesure de bon sens selon lui.
La pandémie, ça fait maintenant un an que nous sommes dedans. Il y a certes des variants, mais à ce moment-là, il faut reconfiner tout. On ne peut pas confiner d'un côté, ne pas confiner le reste. Et je regarde, moi, que les paroles de Mme Bachelot ce matin étaient plutôt de nature à laisser entrevoir une amélioration, et notamment en ce qui concerne des lieux qui sont contrôlés, qui sont sanitairement sûrs. Et à partir du moment où on respecte le protocole sanitaire, ce n'est pas plus dangereux d'aller visiter un musée à Perpignan que d'aller dans un supermarché ou aller faire ses courses.
Louis Alliot, maire RN de Perpignan, qui était ce soir l'invité d'Isabelle Millet et de Julien Bugier dans le 18-20 d'Europe 1. Notez que la préfecture des Pyrénées-Orientales a déposé ce soir un recours devant le tribunal administratif pour interdire la réouverture des musées à Perpignan. Décision attendue demain. La justice qui dit non au maire de Nice, l'arrêté municipal interdisant les locations saisonnières pendant les vacances de février, a été suspendu par le tribunal administratif. Christian Estrosi voulait éviter l'afflux de touristes pour freiner la propagation de l'épidémie. Prenons maintenant la direction du Portugal, où la situation sanitaire est catastrophique. C'est simple, c'est le pays le plus touché au monde en nombre de cas et de décès par rapport à sa population. Et les hôpitaux sont tellement débordés qu'ils ont lancé un appel à l'aide auquel ont répondu 26 soignants de l'armée allemande. C'est aussi ça l'Europe. Soignants allemands qui ont ouvert une unité de soins intensifs à Lisbonne, où vous vous trouvez, Romain Noquet, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1.
Oui, et deux premiers patients viennent d'arriver dans ce service géré par des militaires allemands. Ce sont des malades dans un état très grave qui ont été transférés cet après-midi. Deux patients qui arrivent d'hôpitaux publics de la région, débordés. Un pic d'hospitalisation est même attendu la semaine prochaine. Pour le colonel Evers, c'est cette situation de crise qui justifie une collaboration inédite.
Pour des militaires, c'est une première. Notre unité est capable de se déployer n'importe où dans le monde, très rapidement. Normalement, nous sommes entraînés pour gérer des crises. Personnellement, j'étais en Afghanistan il y a quelques mois. Ici, l'ennemi est invisible, mais extrêmement dangereux.
Dans cette unité allemande, il y a 8 lits qui devraient tous être occupés d'ici la fin de la semaine. Une aide précieuse, m'expliquait un médecin d'un des plus grands hôpitaux de Lisbonne, car dans tout le pays, il n'y a plus que quelques dizaines de lits encore disponible en soins intensifs, une ressource pourtant indispensable pour surmonter cette épidémie. Ces militaires allemands se relayeront jusqu'à fin mars, précise le ministère de la Santé portugais, le temps que les hôpitaux du pays émergent de cette troisième vague.
Romain Oquet, envoyé spécial d'Europe 1 au Portugal.
Europe Soir, Julien Pierce.
C'est aujourd'hui qu'a débuté le Beauvau de la sécurité, voulu, vous le savez, pour apaiser les relations entre la police et la population. C'était d'ailleurs le thème de la table ronde qui s'est tenue aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que refait surface l'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme mort en 2016 après son interpellation dans le Val d'Oise. Dossier devenu pour certains un symbole du débat sur les violences policières. Et pour la première fois, Gladys Laffitte, une expertise mandatée par la justice n'exclut pas que le décès d'Adama Traoré puisse avoir un lien avec son arrestation par les gendarmes.
Oui, c'est la cinquième expertise judiciaire ordonnée par des magistrats qui ont fait le tour des spécialistes français et sont allés chercher des médecins belges pour déterminer les causes de la mort d'Adama Traoré. Ces experts estiment que les manœuvres de contrainte des gendarmes pour interpeller Adama Traoré, c'est-à-dire le menottage et le plaquage ventral, ont vraisemblablement contribué à son décès, ont été un facteur aggravant, écrivent-ils. Pour eux, l'action des gendarmes a donc joué un rôle. C'est la thèse défendue depuis le début par la famille Traoré et leur avocat, maître Yassine Bouzereau.
Il y a également un coup de chaleur qui est mis en avant, mais les médecins expliquent clairement qu'un coup de chaleur seul ne peut pas expliquer le décès, mais par contre que le plaquage ventral, c'est-à-dire le fait que les gendarmes se soient mis sur M. Traoré qui est allongé sur le ventre, a contribué, provoqué le décès.
On le rappelle, Adama Traoré avait aussi des antécédents médicaux, mais qui ont pu, dans une plus faible mesure, contribuer à son décès, selon les experts. Maladie qu'ignoraient les gendarmes, soulignent leurs avocats. Ils le répètent aujourd'hui, les gestes réglementaires opérés l'ont été au regard de la rébellion d'Adama Traoré. Sous-entendu, il n'y a pas eu d'usage excessif de la force.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Europe 1, votre radio qui, toute cette semaine, se mobilise pour venir en aide aux jeunes très affectés par la crise sanitaire et économique, conseils pratiques, offres d'emploi ou encore soutien psychologique, notamment dans la libre antenne d'Olivier Delacroix dans quelques minutes. On bouleverse nos programmes et on s'intéresse aux initiatives qui visent la jeunesse, comme cette première en France, une offre train gratuit pour les 18-26 ans lancée par la région Occitanie, Benjamin Péter.
Oui, l'idée c'est tout d'abord de donner un coup de pouce aux 18-26 ans tout en permettant que le train entre dans les habitudes de ces jeunes. Concrètement, il y aura une application sur téléphone. Les 5 premiers allers-retours du mois sont à 50%, puis c'est gratuit. Et au-delà de 15 allers-retours par mois, vous n'aurez même plus à payer les premiers trajets du mois suivant. Pour Jean-Luc Gibelin, le vice-président de la région au transport, il s'agit de les fidéliser.
L'objectif, c'est d'inciter à utiliser le transport en commun, à passer de Blablacar ou de je ne sais quoi au transport en commun. C'est pas la gratuité open bar, si vous me permettez l'expression. Celui qui l'utilise, il est récompensé parce qu'il va l'utiliser. Ça va finir par être gratuit pour lui. On le fait sur la population de 18-26 ans parce qu'on se dit que d'abord c'est ceux qui aujourd'hui ont besoin de se déplacer et de cibler en particulier ceux qui viennent de passer une période et qui passent encore une période la plus compliquée. Certains ont dit qu'avoir 20 ans en 2020 c'était compliqué. Eh bien nous disons, plutôt que de le dire, proposons quelque chose qui soit utile.
Alors dans un premier temps ce sont 2000 jeunes qui vont en bénéficier dès le mois d'avril. Puis ce tarif sera ouvert à tous les 18-26 ans d'ici la rentrée de septembre, pour un coût estimé à 1,5 million d'euros chaque année pour la région Occitanie.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. En tennis, résultat contrasté pour les Français à l'Open d'Australie. Gaël Monfils, Benoît Paire et Jérémy Chardy ont été sortis dès le premier tour. Ça passe en revanche pour Corentin Moutet, Adrian Manarino, Hugo Humbert et Alizé Cornet. À suivre cette nuit l'entrée dans le tournoi de Pierre Hugerbert et de Kristina Mladenovic. Il ne vous aura pas échappé que la météo est on ne peut plus capricieuse depuis quelques jours et ça va continuer, nous dira dans un instant Anissa Haddadi. Un froid polaire est attendu sur la moitié nord et de fortes chutes de neige, notamment en Bretagne où il n'y aura pas de transport scolaire demain. Sur le front des inondations, dans le sud-ouest, le niveau de la Charente s'est enfin stabilisé. À Saintes, le pic a été atteint aujourd'hui pour le plus grand soulagement des habitants, comme l'a constaté notre correspondant Stéphane Place.
C'est leur bureau de courtage en crédit immobilier ici au cœur de Saintes que Nathalie et Dominique ont protégé comme ils ont pu.
Deux fois par jour, on vient voir, on a isolé tous les meubles.
Il me restait simplement le bas de la porte vitrée, là, avec une marche, donc avec une bavette en caoutchouc. J'ai réussi à sécuriser. Et normalement, la décrue va s'amorcer. Il me restait 5 cm avant que ça rentre dedans, donc ça devrait être bon.
C'est la première fois que je vois la place Bassompierre, donc avec l'Arc de Triomphe, les pieds dans l'eau, c'est la première fois que je le vois, franchement.
Ouais. Un peu plus loin, c'est le restaurant de Valérie et de son mari que l'eau a fini par envahir, mais pas question de baisser les bras.
Les pompiers sont venus hier, on leur avait demandé juste les parpaings, ils ont dit oh non, on est là, on vous le fait, et c'est vrai qu'en deux temps, trois mouvements, ils avaient tout soulevé, tout surélevé, ça nous a boosté. Les clients, le nombre de messages qu'on reçoit, c'est incroyable, ça fait vraiment du bien, quoi. On va rebondir. Hein.
Une crue assez rapide, un pic atteint à la mi-journée, et l'espoir d'une décrue qui pourrait aller un peu plus vite que par le passé. Bruno Draperon est le maire de Saintes.
Il y a environ un millier de maisons où les murs ont pris l'eau. Ça dépend aussi des eaux qui sont rentrées chez vous. Quand les eaux sont claires comme ici, ça va à peu près. Mais des endroits où il y a des cuves à fioul qui ont fui. Donc on a aussi certaines petites pollutions qui sont dues dans les murs.
Le bout du tunnel, le début de la fin, c'est ce que nous répètent les sinistrés ici qui espèrent voir la Charente enfin regagner son lit. Saintes, Stéphane Place, Europe 1.
Et c'est tout naturellement que l'on passe à la météo. 12 départements sont toujours ce soir en vigilance orange. 6 pour crue, 2 pour grand froid, le nord et le Pas-de-Calais, et 4 pour neige-verglas. Et c'est dans l'ouest qu'il y aura de la poudreuse demain, Anissa Haddadi.
Oui, c'est en Bretagne, Julien, principalement que la neige va tomber demain matin avec 2 à 5 cm attendus en plaine. Attention également sur la moitié nord du pays au risque de verglas avec des températures négatives très nombreuses. Sur la façade atlantique des Pays de la Loire, Hollande, il neige aussi dans l'après-midi. Cette neige sera accompagnée d'une perturbation pluvieuse et sur le sud-ouest, c'est de la pluie que nous aurons. Sur les reliefs des Pyrénées et du Massif central, il neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Et puis à l'est du pays, le temps est sec, très couvert, hein, avec du nord au nord-est de nombreux nuages bas demain matin. Attention sur la route, c'est en fin de journée et en début de nuit prochaine que le temps va nettement se dégrader. Avec de la Normandie à l'Alsace, en passant par la région parisienne, l'arrivée là aussi de la neige en pleine, les sols vont pas mal blanchir. Hein. En Corse, le vent souffle, le temps est agité sur les côtes et les reliefs et toujours un risque d'averse. Les températures, elles baissent encore demain, je vous le disais, avec pas mal de gelées sur la moitié nord. Moins 6 degrés à Lille, moins 4 à Paris et Reims, moins 3 à Metz, moins 2 à Rennes et Strasbourg, 0 degrés à Lorient, 4 pour Aurillac, 7 à Nice et Bastia. Et puis dans l'après-midi, pas de dégel sur les Hauts-de-France, toujours des températures négatives. Nous aurons 0 à 4 degrés sur la moitié nord et puis 8 à 14 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 16 même au bord de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo, interview qui reviendra sur l'OPA que veut lancer Veolia sur Suez. Sommes-nous en train d'assister à une bataille historique? C'est l'une des questions que posera Emmanuel Dutheil à son invité François Chollet, directeur général de Montségur Finance. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, merci de votre fidélité. C'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine sur une note encore positive avec les valeurs de technologie et le pétrole.
On ne change pas une équipe qui gagne. Nouveau record, hein. On est au sommet sur le Dow Jones, plus 0,76%, 31 386 points. Record sur le Nasdaq, toujours plus haut, plus 0,95%, 13 988 points. Et donc les valeurs de technologie effectivement montent encore, à l'image de Tesla, plus 1,3%, 863 $. Le groupe a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin pour placer ses liquidités. Il pourrait même accepter cette crypto-monnaie pour se faire payer. Du coup, le Bitcoin a flambé logiquement aujourd'hui à 43 000 dollars. Il est en hausse de 50% depuis le début de l'année. Donc, ça veut dire depuis un mois. Hein. C'est pas vieux.
Effectivement.
On est à 36 600 euros sur le Bitcoin ce soir. Donc, très forte hausse du Bitcoin, mais aussi du pétrole. Au plus haut depuis plus d'un an, $60 le Brent. Depuis janvier 2020, on est au plus haut sur le pétrole. Goldman Sachs attend une demande de pétrole qui va retrouver son niveau d'avant-crise d'ici le mois d'août prochain. C'est assez rapide. Et du coup, Exxon gagne 4%, Chevron aussi plus 2,5%. Et puis le secteur aérien, en attendant une nouvelle aide américaine, remonte aussi. American Airlines plus 3,3%, Delta plus 5%, United plus 5,2%. L'euro est beaucoup plus calme. L'euro est à 1,20 face au dollar.
La Bourse de Paris a, elle aussi, prolongé son mouvement de hausse de la semaine dernière.
Oui, c'était toujours un petit peu la même rengaine, une hausse. Alors, on est loin des records, hein. On n'est pas comme à Wall Street, mais ça monte quand même, plus 0,47% sur le CAC 40, 5700 points en séance, à la clôture 5686 points. Et comme la semaine passée, les valeurs santé poursuivent sur leur lancée. On a Oz Immuno qui gagne 25%, Lysogène 15%, Valneva plus 6%. Les valeurs industrielles aussi sont soutenues encore. Plastivaloir, plus 7%, Figeac Aero, plus 7% aussi, Mersen, plus 5%, et puis donc les pétrolières, avec le baril qui est au plus haut depuis plus d'un an, CGG, plus 4,5%, Morel et Prom, plus 0,1%, Total, plus 0,3%, est à 35,18€ ce soir à la clôture.
Exception du jour, le tandem Veolia-Suez qui a perdu du terrain sur fond de bras de fer qui se poursuit entre les deux groupes.
Oui, ça commence un petit peu à lasser le marché qui aimerait bien voir une issue à cette affaire qui dure depuis 6 mois. Donc, pas d'issue, on en est loin d'ailleurs. Suez, moins 0,5%, 17,17€. Veolia, moins 1,5%, 22,57€, qui s'est donc fait recaler son offre. Une offre à 18€ par le tribunal de commerce de Nanterre. On va en reparler tout à l'heure avec l'interview du jour. Donc, on s'enlise sur le dossier et ça baisse assez logiquement sur Suez et Veolia en Bourse de Paris. Les autres places financières sont plutôt stables. Dax est inchangé, Madrid inchangé aussi, Amsterdam plus 0,5 quand même, Londres plus 0,5 aussi et le CAC 40 en hausse de 0,47%, 5686 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de Boursier.com et à demain. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir François Chollet.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Monségur Finance. C'est quoi Monségur Finance ? C'est une société de bourse. À ce titre-là, vous êtes depuis des années un grand observateur des marchés financiers. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de la bataille entre Veolia et Suez. Beaucoup d'observateurs disent que l'on n'a jamais observé une telle bataille dans le capitalisme français. Je rappelle que Veolia veut mettre la main sur Suez, mais Suez ne veut pas en entendre parler. Est-ce que c'est votre avis ?
Alors, ce sont deux groupes qui cristallisent de très nombreuses décennies de concurrence sur un marché qui était le marché français et dont les histoires sont extrêmement fortes. Deux cultures d'entreprise très fortes qui donnent aujourd'hui deux managements relativement opposés et surtout les prémices d'une bataille d'abord juridique mais désormais boursière qui ne fait que commencer.
On est d'accord, on peut le dire là aussi très directement, ce sont deux groupes qui historiquement se détestent.
Ces deux groupes qui étaient sur un marché un peu fermé initialement et qui se l'étaient partagé dans une situation plutôt oligopolistique avec un client qui était un donneur d'ordre généralement pas mal public puisque ce sont les collectivités locales qui étaient essentiellement les clients, que ce soit en approvisionnement d'eau ou en traitement des déchets.
Dans le monde très policé malgré tout de la bourse et des grands patrons, est-ce que ça peut laisser des traces pour la place de Paris ?
On peut dire que cet affrontement est de nature à laisser des traces, pas forcément dans le cadre d'une bataille boursière. Les marchés et le capitalisme international sont remplis de batailles homériques entre des managements qui se font une bataille pour essayer de défendre leur précaré.
Mais à ce niveau-là, malgré tout, c'est rare. C'est rare quand même que deux grands groupes comme ça s'invectivent par médias interposés de la façon où ça se passe entre Veolia et Suez. C'est en cela où on pourrait se dire que ça peut laisser des traces même sur l'image du capitalisme français.
Je partage l'idée que cette histoire a commencé entre gens bien policés qui sont allés poliment demander l'autorisation avant de procéder à ces annonces. Pour autant, il n'empêche que nous avons deux managements, et vous l'avez rappelé, qui ne s'entendent pas de longue date et qui sont concurrents de très longue date. Et donc, vous avez, suite à cette prise de position, puisque maintenant, on peut dire que Veolia fait partie du capital de Suez et a récupéré quasiment 30% des droits de vote de Suez. Veolia est en capacité d'agir maintenant et il va se battre. Je pense qu'ils vont se battre pied à pied pour défendre les intérêts respectifs. On est dans une situation qui est un peu paradoxale parce que finalement, la France est un dommage collatéral et le politique français est quelque part aussi à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui entre ces deux groupes. Soyons clairs, il y a aujourd'hui un monopole ou quasi-monopole entre ces deux groupes sur le territoire national et en revanche, stratégiquement, à l'international, il y avait une très belle complémentarité. Et c'est la raison pour laquelle Veolia, aujourd'hui, souhaite prendre possession du capital de chez Environnement. C'est parce que, finalement, à l'étranger, il y a beaucoup de choses à faire ensemble pour créer un groupe mondial fort dans une technologie et dans une thématique qui est environnementale.
Mais on arrive à se remettre de tels affrontements après. Imaginons que Veolia gagne, ce qui est une éventualité malgré tout, et donc prennent le pouvoir total chez Suez. Quand on s'est tellement invectivé, on arrive ensuite à travailler où c'est de facto une fusion qui ne fonctionnera jamais. On sait que souvent, ce qu'on appelle les OPA inamicales ont beaucoup moins de succès par définition que les OPA amicales.
Je pense que l'affrontement actuel, qui est plutôt boursier, n'est pas de nature à empêcher la fusion à terme entre les deux groupes. Là où on peut avoir une difficulté, encore une fois, c'est sur le territoire national, qui est un territoire où les équipes sont en face à face de longue date. Mais il ne faut pas se tromper, il n'y aura pas un seul acteur qui s'appellerait Veolia en France. Il est d'ores et déjà prévu la recomposition du paysage concurrentiel de la distribution et du traitement des déchets en France entre ces deux groupes avec le soutien ou la participation d'un tiers pour venir régler le dommage collatéral que représentait la France dans cette grande opération de fusion dont la stratégie initiale n'a pas vocation à être française. Cette stratégie elle a vocation à créer un groupe mondial avec une implantation géographique extrêmement large et avec des parts de marché significatives dans les pays de façon à pouvoir assurer à très long terme le développement d'entreprises. Ce sont des contrats longs, les contrats de fourniture de ces services aux collectivités locales et aux pays, et donc il est nécessaire d'avoir de la visibilité pour les clients. Donc je pense que on se focalise beaucoup sur cette bataille qui est plutôt française, mais qui ne correspond pas à l'enjeu stratégique final de cette opération qui a vocation à créer un champion mondial.
Oui, puisqu'on a peu l'occasion en France de pouvoir créer au sein du pays des champions qui pourraient après rivaliser. Là, c'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial qui pourraient fusionner, mais ça resterait un petit groupe à l'échelle mondiale, parce que je crois qu'ils auraient 5 ou 6% à eux deux du marché mondial, mais qui pourraient concurrencer les futurs groupes chinois qui sont en train de se mettre sur pied, par exemple.
C'est la vision de M. Frérot aujourd'hui que de venir consolider ce marché. Comme vous le rappelez, c'est un marché qui est extrêmement éclaté au niveau mondial, même s'il est extraordinairement concentré sur notre petit pays, mais qui devient à cette échelle un détail et un dommage collatéral, comme je le disais.
Eh bien, un grand merci François Chollet. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Montségur Finance, société de bourse qui surveille donc de très près les marchés. Et si ce dossier vous intéresse, soyez au rendez-vous demain matin, 7h40. Le patron de Suez, Bertrand Camus, sera l'invité du face-à-face de Mathieu Belliard sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag au programme émission spéciale autour des vaccins. Où en est-on vraiment? La France est-elle toujours en retard? Et bien pour répondre à ces questions, une invitée de marque, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie qui gère le dossier des vaccins. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Revenu universel et si on en reparlait, interroge en une Libération. Même à droite on y pense, assure le journal. Le concept porté par Benoît Hamon pendant la présidentielle de 2007 revient en force à la faveur de la crise et c'est une bonne nouvelle, s'enthousiasme Alexandra Schwarzbrod dans son édito. Car si ce revenu existait aujourd'hui, on ne verrait pas les étudiants faire la queue à la soupe populaire et renoncer à tout avenir. Et si les années 2020 devenaient une ère de prospérité, telles les années 1920 après la guerre? C'est la question que pose Jean-Marc Vittori dans Les Échos. La thèse, en tout cas, commence à percer dans certains cénacles économiques. L'envie de revivre après 18 mois mortifères et le coup d'accélérateur donné par la crise sanitaire à des révolutions technologiques majeures rend cette hypothèse plausible, écrit l'éditorialiste, et on a fortement envie qu'il ait raison. En attendant des jours meilleurs, Bercy pérennise le recours aux informateurs pour combattre la fraude fiscale. fiscale, peut-on lire toujours dans les échos. Les services du fisc vont pour la cinquième année consécutive pouvoir rémunérer ce que l'administration appelle les aviseurs fiscaux, jusqu'à 1 million d'euros en échange d'un renseignement qui permet à Bercy de recouvrer l'impôt d'un individu ou d'une entreprise ayant manqué à ses obligations. Et d'impôts, il en est aussi question dans l'Alsace. Dans son édito, Laurent Baudin revient sur l'enquête d'une quinzaine de médias européens, dont Le Monde, qui se penche sur les pratiques fiscales du Luxembourg. On y apprend que 9 sociétés sur 10 immatriculées au Grand-Duché sont détenues par des non-résidents, des entreprises pour beaucoup fantômes, sans bureau ni salariés, et créées par des milliardaires, des multinationales ou encore des sportifs cherchant à échapper à l'impôt.